enregistré. Donc, vous êtes maître de conférence en langue et littérature française médiévale à l'université de Stendhal-Grenoble III. Après une thèse sur les saisons dans la poésie française des 16e et des 14e pardon, et 15e siècles, vos travaux sont désormais englobés par des recherches sur l'agronomie. Vous vous intéressez au rapport entre la littérature et la science, c'est pour ça que vous êtes là. Vos recherches continuent de porter sur la fin du Moyen-Âge et plus particulièrement sur les deux traductions en français du Liber Ruralium Commodorum, que vous connaissez tous, je suppose, nos médiévistes distingués. Traité d'agriculture de l'italien Pietro de Kretschensky, je dis ça devant Cynthia, pas voilà, mal prononcé. Vous intéressez aux pratiques médiévales de la traduction et à l'élaboration d'un lexique technique et scientifique français. Vous collaborez actuellement au projet d'un dictionnaire vocabulaire scientifique français du Moyen Âge avec Joël Ducos, je suppose. Et puis j'ai oublié son nom, quelqu'un qui était déjà venu ici justement, qui travaille sur un dictionnaire. Voilà. Claude Thomasset, voilà, on le salue. Vous avez publié plusieurs articles, notamment une intervention lors d'un colloque sur les origines de la géologie, dont les actes sont parus chez Champion en 2010. Merci beaucoup, Fleur Vigneron, d'être parmi nous ce soir. Merci.
Ben, merci à vous. Donc cette intervention envisagera comment le savoir en matière d'agronomie se transmet tout au long du Moyen-Âge par le biais des textes. Les connaissances de l'Antiquité romaine continuent de faire autorité. Je ne dirai rien des traités andalous en arabe, car il s'agit d'agronomes qui n'ont pas vraiment connu une diffusion européenne. Leurs ouvrages sont très spécialisés, c'est leur mérite d'ailleurs, ce sont de très grands ouvrages d'agronomie. Ils tiennent compte des caractères locaux du sol et du climat espagnol. Certains textes furent traduits en latin, en castillan, passant ainsi du monde musulman au monde chrétien, mais ils sont lus en Espagne. Cette remarque me permet de préciser que lorsque des traités circulent à travers l'Europe, c'est parce que les lecteurs médiévaux y trouvent un savoir général. Il ne s'agit pas pour eux de se renseigner sur l'agriculture dans telle ou telle région, de tel ou tel pays. Dans cette optique, la tradition textuelle byzantine n'est pas complètement ignorée de l'Occident. Cet ensemble de textes, venant d'ailleurs, d'un point de vue temporel ou géographique, constituera le premier point de cette intervention. Mais l'Occident médiéval latin ne se contente pas de copier et sauvegarder un héritage. Il produit ses propres traités, ce qu'on verra dans un deuxième temps. Bien plus, il ne s'agit pas seulement d'écrire en latin. Des œuvres en langue vulgaire voient le jour et font naître le genre du ménagier. En outre, la fin du Moyen-Âge est marquée par une entreprise de traduction des textes latins en langue vernaculaire, contribuant ainsi à diffuser les connaissances. Nous nous arrêterons sur cette activité en langue vulgaire en la liant à un dernier aspect concernant la présentation concrète de ces textes. En effet, ces ouvrages ne se présentent pas forcément comme d'austères manuels et manuscrits de travail. Certains sont richement enluminés, ce qui témoigne d'un engouement de la part des grands commanditaires. L'intérêt des lecteurs pour l'agronomie est réel, comme le montre enfin le passage des manuscrits aux livres imprimés dès 1471. L'Antiquité romaine nous a légué quatre grands traités. Le De Agricultura de Caton l'Ancien, 2e siècle avant Jésus-Christ, les Res Rusticae de Varron, 1er siècle après Jésus-Christ, le De Re Rustica de Columelle, également 1er siècle, et l'Opus Agriculturae de Palladius, des 4e ou 5e siècle. Ces textes ont en commun de commencer par la présentation du domaine, qui comprend notamment les critères d'installation du bâtiment d'habitation. L'objet de l'agronomie, c'est l'agriculture, divisée en spécialités, agriculture au sens strict, viticulture, arboriculture, horticulture et élevage. Les traités abordent plus ou moins tous ces aspects selon les auteurs. Le texte de Columel est le plus long, le plus complet. Il comprend 12 livres ainsi ordonnés. Donc le premier, comme je le disais, forcément le domaine. Deuxième livre, les questions de fumure. Troisième livre sur la vigne ainsi que le quatrième. Le cinquième sur les arbres. Sixième, les bovins, les équidés. Septième, sur les ovins, caprins, porcins. Huitième, pour la basse-cour. Neuvième, pour les abeilles. Dixième, les jardins. Le onzième livre propose un calendrier. Et on termine avec le douzième livre sur les travaux ménagers domestiques. Le discours est technique. Mais il devient aussi scientifique lorsque les auteurs essaient de comprendre le fonctionnement de la vie végétale ou les raisons de l'appauvrissement du sol cultivé, comme on le voit chez Columel. À côté de ces quatre auteurs de poids, parce qu'il a été lu au Moyen-Âge, on pourrait aussi citer Gargilius Martialis, auteur du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui a écrit un ouvrage intitulé « Des jardins », le « De hortis », pour enseigner la culture de diverses plantes. Notre connaissance de la survie des agronomes romains pendant le Haut Moyen-Âge repose sur deux sources principales. Les manuscrits subsistants et les mentions de textes agronomiques relevés dans les inventaires des bibliothèques. À l'époque carolingienne, dans ce qui deviendra la France, les traités de Caton, Varron, Columel et Palladius sont connus. Toutefois, les œuvres de Caton et Varron ne furent sans doute pas très diffusées. Un manuscrit connu des humanistes Policien et Vettori, mais aujourd'hui perdu, atteste que Varron et Caton étaient copiés au temps carolingien, ainsi que Gargilius Martialis. En fait, la littérature agronomique est plutôt délaissée par rapport à d'autres types de textes. Il est rare qu'on trouve la mention d'un traité d'agronomie dans une bibliothèque avant le XIIe siècle. Et quand c'est le cas, il s'agit toujours de Palladius. On a gardé que 16 manuscrits des traités d'agronomie romains copiés avant le XIIe siècle. À l'exception de fragments de Gargilius Martialis, ce sont tous des manuscrits de Columel ou de Palladius. Peu à peu, Palladius éclipsa Columel, sans doute parce que face à l'ampleur imposante du traité de Columel en 12 livres, je vous les ai énumérés tout à l'heure, et 12 livres très fournis, Palladius avait l'avantage de fournir une synthèse bien plus courte. Mais il me semble aussi que ce phénomène traduit un certain désintérêt pour les questions agronomiques, désintérêt qui s'installe peu à peu dans cette époque carolingienne. Au IXe siècle, Columel est intégralement copié à Corbie, donc en Picardie, et à Fulda, en Allemagne. On a conservé deux manuscrits. Puis cet auteur va tomber progressivement dans l'oubli. Les deux seuls manuscrits du XIe siècle actuellement conservés ne proposent que des extraits et non le texte intégral, ce qui est déjà révélateur. Entre le 8e et la fin du 11e, c'est le début de l'époque carolingienne, c'est-à-dire les 8e, 9e, qui fournissent l'effort le plus intense de copie et de transmission des textes d'agronomie, car sur 16 manuscrits antérieurs au 12e siècle, 10 datent du 9e. Ces manuscrits sont exécutés pour la plupart en France du Nord et en Allemagne. Ce qu'on a appelé la Renaissance carolingienne a joué un rôle dans la transmission du savoir agronomique. Ce sont surtout les grandes bibliothèques monastiques qui détenaient ces manuscrits. Les laïcs possédant les manuscrits faisaient exception. Mais dans le cas des extraits choisis, il ne faut peut-être pas s'imaginer que le but de ces copies était forcément de transmettre les connaissances en matière d'agronomie. En effet, en ce qui concerne Columel, on se rend compte que les choix obéissent en fait parfois à d'autres motivations. Par exemple, dans un manuscrit copié à Corbie au IXe siècle, des passages du livre 12 sur l'arpentage sont retenus. Columel est le seul agronome romain à traiter de cette question de l'arpentage qui, dans l'Antiquité, faisait l'objet d'une tradition spécifique avec des traités spécifiques. Ce manuscrit copié à Corbie comprend, outre ces extraits de Columel, comprend des textes pour l'enseignement des arts libéraux. Les textes de géométrie proprement dite étaient perdus à l'époque carolingienne. On retrouvera Euclide plus tard. Ces extraits de Columel sont très certainement copiés pour assurer l'apprentissage de la géométrie. La diffusion de Columel ne répond donc pas toujours à un intérêt pour l'agronomie. Au XIIe siècle, seul Palladius est encore vraiment lu. Son traité est de loin le livre d'agriculture le plus copié. On conserve encore des manuscrits venant de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Angleterre, pour parler en termes géographiques actuels. Palladius, auteur de l'Antiquité tardive, reprend les grands traités précédents, mais en innovant pour ce qui est de la forme. En effet, il abandonne la présentation thématique de ses devanciers, j'ai donné l'exemple de Columel, et il adopte un calendrier des activités rurales. Donc après un premier livre qui présente le domaine, ça il commence quand même comme tout le monde, on va suivre ensuite, mois par mois, les travaux agricoles, avant un dernier livre sur les arbres fruitiers. Dans ses recherches, Jean-Louis Gaulin a montré que des manuscrits de Palladius se trouvaient dans les bibliothèques cisterciennes en France et en Allemagne à partir du XIIe siècle et que la diffusion passait à l'Italie au XIIIe. Dans ce dernier pays, les manuscrits proposant des traités d'agriculture sont rares avant le XIIIe. Et Jean-Louis Gaulin a ainsi pu établir le rôle des cisterciens dans la diffusion du traité de Palladius. Je vous montre la première page d'un manuscrit de l'Opus Agriculturae, copié justement en Italie, dans le troisième quart du XIIIe. Durant les XIVe et XVe siècles, outre Palladius, on relie aussi vraiment Caton, Varron et Columel. Le texte entier de Columel redevient accessible au XVe. La plupart des manuscrits donnant les traités de ces auteurs datent en fait de la fin du Moyen-Âge. Actuellement, nous possédons seulement deux manuscrits carolingiens complets de Columel. La preuve de l'intérêt que la fin du Moyen-Âge porte à ces quatre auteurs romains est apportée par le passage à l'imprimerie dans l'édition Princeps des Scriptores Rei Rusticae en 1472 à Venise. La fin du Moyen-Âge cite également Gargilus Martialis, qui bénéficie aussi de cette édition de 1472. Au nombre des auteurs latins de l'Antiquité, même s'il ne s'agit pas de textes techniques, il faut citer l'histoire naturelle de Pline. Pline, encyclopédiste donc du 1er siècle après Jésus-Christ, Et il faut citer aussi les Géorgiques de Virgile. En effet, l'histoire naturelle de Pline a été lue vraiment pendant tout le Moyen-Âge. Certes, l'ensemble n'est pas un traité d'agronomie, mais le livre 18 porte sur l'agriculture et comme tel, il influence les auteurs médiévaux qui traitent de ce sujet. Je vous ai apporté là une page de ce livre 18 avec des lettres filigranées dans un manuscrit qui date probablement du dernier quart du XIIIe. Donc c'est un manuscrit qui a été lu par Pétrarque, qu'il y a laissé des notes, et là, ce dessin de la fontaine de Vaucluse, évidemment, on ne peut pas résister, donc voilà, c'est pour ça que je vous le montre. Je ne peux pas résister. L'œuvre de Virgile, donc poète, 1er siècle avant Jésus-Christ, est également lue, elle, pendant tout le Moyen-Âge. Bien sûr, il est lu dans une perspective littéraire et linguistique. Mais on ne peut occulter le fait que les Géorgiques portent sur l'agriculture. Donc, en tant que tel, de par son sujet, le texte touche à l'agronomie. Même si ce n'est pas un pur traité d'agronomie, puisque c'est un poème qui, en tant que tel, a également un but esthétique. Mais tous les savants du Moyen-Âge connaissent ce texte, et les agronomes proprement dit y font référence, aussi bien dans l'Antiquité d'ailleurs qu'au Moyen-Âge. Pour l'Antiquité, agronomie et littérature pouvaient très bien aller de pair. Il faut bien réaliser que cette séparation est moderne. Elle n'appartient pas du tout à l'époque antique ni médiévale. La meilleure preuve en est que Columelle traita poétiquement de l'horticulture, justement en hommage à Virgile, dans le chapitre 4 du livre 10 de son traité. Et Palladius écrivit un poème, hein, en dehors de son traité d'agronomie, un poème sur l'art de greffer, le De Incitione. Voici un exemple d'ouverture des Géorgiques, donc montrant un encadrement avec des paysans au travail. C'est un manuscrit des environs de 1460, réalisé à Lyon. Assez classique, et pour l'aspect éminemment artistique, voici une illustration du triomphe de Bacchus et de Cérès dans un manuscrit des Géorgiques réalisé en Vénétie et datant des environs de 1460-1470. Pour donner une idée de l'ampleur de la diffusion des Géorgiques durant le Haut Moyen-Âge par rapport aux maigres chiffres relevés pour les traités d'agronomie proprement dit et que j'ai donnés tout à l'heure, il faut dire qu'on conserve actuellement 112 manuscrits des Géorgiques écrits entre le 8e et le 11e siècle. Vous voyez tout de suite par rapport aux traités d'agronomie proprement dit, que la proportion n'est pas du tout la même. À l'époque carolingienne, d'ailleurs, le texte des Géorgiques n'est pas séparé dans les copies du reste du corpus virgilien. C'est à partir du XIe qu'apparaissent des copies distinctes, avec d'une part les Géorgiques les bucoliques et d'autre part l'Énéide. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet également de réaliser qu'à partir du XIIe, c'est l'Énéide qui a la faveur des lecteurs. Néanmoins, les trois œuvres de Virgile sont lues assidûment pendant tout le Moyen-Âge. Le savoir antique s'est transmis largement à Constantinople et évolue en aboutissant à la compilation d'une encyclopédie rurale écrite en grec intitulée « Les Géoponiques ». La dernière version de cet ouvrage, placée au Xe siècle sous l'autorité de l'empereur Constantin VII Porphyrogénète, comprend 20 livres et couvre la totalité des activités agricoles. Bien sûr, Constantin VII sert d'autorité, hein, il n'est pas l'auteur à proprement parler. On attribue désormais la première version de ce traité à Cassianus Bassus, agronome, probablement du VIe siècle, vivant dans l'Empire byzantin. Et même avant lui, il y a eu un premier noyau, en fait, de ce texte qui remonte au IVe siècle. C'est un ouvrage donc de compilation qui s'est élaboré étape par étape au fil des siècles. Au XIIe, Burgondio de Pise en traduit en latin des extraits relatifs à la vigne et au vin, sous le titre de Liber Vendémié ou Liber de Vendémiis. Ce Burgondio de Pise était un juriste, traducteur donc italien du XIIe, et de 1168 à 1171, il séjourna à Constantinople, envoyé comme membre d'une délégation pisane auprès de l'empereur Manuel Ier Comnène. Il était très réputé pour sa connaissance du grec, et ce livre de Vendange sera la matrice de la littérature occidentale consacrée aux techniques de vinification. Cette traduction connut un vif succès. On la trouve dans plusieurs manuscrits faisant suite à l'Opus Agriculturae de Palladius. Et d'un point de vue technique, cette traduction apportait un notable enrichissement parce que le texte de Palladius abordait de manière assez superficielle les problèmes liés à la vinification. Il s'agit là d'une traduction. Il est temps d'aborder l'œuvre originale que va proposer l'Occident médiéval latin. Cinq manuscrits, un français et quatre italiens du traité de Palladius, illustrent le passage de l'activité de copie à celle d'une production propre de l'Occident. En effet, ces manuscrits présentent, après la copie du texte de Palladius, un texte anonyme, sans titre, qui donne des règles d'économie rurale. Jean-Louis Gollin, éditeur de ce texte, l'a intitulé « Préceptes cisterciens d'économie rurale » parce que tous les manuscrits, sauf un, se rattachent aux cisterciens. Ces préceptes datent vraisemblablement de la seconde moitié du XIIe et sont certainement d'origine cistercienne et champenoise. Le texte est très court. Il comprend simplement quatre chapitres en latin. Le premier établit la quantité de draps de laine ainsi que le nombre de brebis qu'il faut pour habiller une communauté de moines. Le deuxième constitue un petit art de bergerie. Le troisième donne des conseils d'horticulture pour la gourde ou calebasse, cougourta dans le texte latin. Et le quatrième chapitre établit la ration d'avoine annuelle pour un cheval de trait. Reflétant donc des préoccupations économiques et techniques très concrètes, ces préceptes ont dû être formulés comme un complément du traité antique de Palladius, copié à Clairvaux. Le troisième chapitre s'adresse explicitement à un maître, donc magister dans le texte latin, qui surveille le travail des bergers. On peut voir dans ce magister la figure du maître des convers, donc régisseur des granges importantes, intermédiaire entre les convers, donc agriculteurs et bergers, et les moines. La disposition de ces cinq manuscrits montre aussi que copier un texte ne se résume pas à une volonté de conservation du passé. Le texte antique fait autorité, mais n'empêche pas l'élaboration d'un savoir nouveau ou différent. Le texte ancien dialogue avec la pratique médiévale et c'est parce qu'il sert qu'il est copié. On peut ainsi, sur certains points, comparer savoir antique et pratique médiévale. Les préceptes adaptent l'élevage au vin aux conditions climatiques de la France du Nord. À propos, par exemple, de la période de reproduction, Palladius conseillait de procéder à l'accouplement entre avril et juin, de sorte que les brebis mettent bas à l'automne. Ce calendrier convient très bien pour le climat méditerranéen. À l'automne, la température est douce, les premières pluies permettent à l'herbe de pousser. En revanche, en Champagne, l'accouplement a lieu à la mi-octobre pour un agnelage vers la mi-mars. Et au bout d'un mois, les agneaux sont sevrés à une époque où la nourriture des prés redevient abondante. Le rédacteur des préceptes corrige ainsi Palladius pour ses propres besoins dans son environnement. Même si les historiens de l'agronomie ont moins l'habitude d'en faire état, il faudrait, je pense, signaler dès les 6e, 7e siècles l'œuvre d'Isidore de Séville, donc le livre 17 des étymologies, car dans sa première partie, il est consacré à l'agriculture. Même si ce n'est pas un traité d'agronomie, au sens propre, puisque, comme le titre l'indique, étymologie, il s'agit d'abord de linguistique. Cela dit, ce livre 17 aborde l'agriculture, donc, de par son sujet, il touche à l'agronomie. En outre, les agronomes proprement dit renvoient parfois à Isidore de Séville, et son travail à base étymologique est très largement diffusé durant tout le Moyen-Âge. À propos d'ailleurs de cet exemple sur Isidore de Séville, il faut souligner la prudence nécessaire vis-à-vis des listes ou des mentions d'auteurs. En effet, au début du livre 17, Isidore de Séville propose une liste d'agronomes de l'Antiquité, mais cela ne reflète en aucun cas ses lectures. Il s'agit de noms qu'il a trouvés dans des traités. Isidore de Séville n'a lu directement, avec certitude, que Columelle et Palladius. Outre le livre 17, il faut aussi mentionner deux autres livres des étymologies. Le livre 15, intitulé « Les constructions et les terres », et le livre 20, « Sur les instruments ». Bien plus tard, au XIIIe siècle, il conviendrait également de tenir compte du De Vegetabilibus d'Albert le Grand, dominicain originaire d'Allemagne, car il s'agit d'un ouvrage qui décrit les végétaux, bien sûr, mais qui comprend aussi une partie agronomique à la fin dans le livre 7. Je vous donne là une estampe du XVIe siècle, à défaut de manuscrits, parce que je n'ai pas de reproduction de manuscrits pour le De Vegetabilibus. Ce dernier livre 7 comprend deux sections. La première envisage l'agriculture en général. La seconde distingue quatre activités spécialisées. Culture des champs, horticulture, arboriculture, viticulture. La première partie du livre 7 s'organise autour de l'idée qu'il y a, je reprends à peu près le texte d'Albert le Grand, quatre choses qui font qu'une plante est cultivée. La nutrition, la préparation du sol, les semailles et le greffage. Albert le Grand parvient ainsi à regrouper les principaux travaux agricoles à partir de ces quatre notions. En quelques pages, il propose ainsi un petit traité d'agriculture. Par ce plan, on peut mesurer l'originalité du propos du dominicain, surtout quand on sait que sa source principale était le traité de Palladius, qui ordonne donc, je l'ai dit tout à l'heure, sa pensée sur le modèle du calendrier, mois par mois. Albert le Grand n'a pas repris cette présentation. Il a effectué un véritable travail de réorganisation de la matière agronomique Et Palladius lui a surtout été utile pour sa seconde partie du livre 7. Mais en fait, quand on regarde de près la première partie, le dominicain réfléchit plutôt seul en s'appuyant sur ses connaissances en matière de physique aristotélicienne. Les notices consacrées aux différentes plantes cultivées sont très brèves dans la seconde partie. Les chapitres concernant l'agriculture générale dans la première partie sont beaucoup plus développés. Cela semble indiquer que ce n'est pas la pratique agricole qui intéressait le plus Albert le Grand. Il souhaitait surtout s'interroger sur les conditions de la croissance des végétaux et procéder à une réorganisation du traité de Palladius. Donc l'idée de base était de présenter synthétiquement les principales techniques agricoles, puis de renvoyer à la seconde partie du livre 7 pour le détail des pratiques agraires. Son attitude est scientifique dans la mesure où il tente d'établir de véritables règles dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, pour les greffes, Albert le Grand édicte la règle de greffer du semblable au semblable selon l'espèce. Et il insiste, donc on va dire en termes modernes, sur l'affinité entre le greffon et le porte-greffe. L'ambition du dominicain est d'établir ainsi les grandes lois de l'agriculture. Le premier grand traité médiéval sur l'agriculture nous vient d'un Italien, Pietro de Crescenzi, qui écrit entre 1305 et 1309 le Liber Ruralium Commodorum. Né en 1230 à Bologne et mort en 1321, Pietro de Crescenzi était un magistrat qui avait fait des études de droit, bien sûr, mais aussi de médecine et de sciences naturelles. Il possédait une ferme près de sa ville natale et c'est là, vers la fin de sa vie, qu'il entreprit son ouvrage. Le texte est dédié à Charles II d'Anjou, roi de Sicile, et au général des frères prêcheurs, Emery Giuliani. Cette œuvre a connu un immense succès. Il nous en reste une centaine de manuscrits, 122 exactement, conservés dans différents pays européens. Autre signe de l'intérêt porté au texte, il passa le cap de l'imprimerie, la première édition datant de 1471 à Augsbourg. Et il y eut ensuite plusieurs éditions en cette fin du Moyen-Âge. Ce Liber Ruralium Commodorum est un traité en 12 livres très complet. Il se décompose de la façon suivante. Premier livre sur l'habitat rural. Deuxième livre, les généralités sur les plantes. Troisième, les céréales et légumineuses. Quatrième, sur la vigne. Cinquième, sur les arbres. Sixième, les plantes, les herbes, comme on dit en ancien français. Septième, sur les prés et les bois. Huitième, les jardins d'agrément. Neuvième, les animaux domestiques. Un dixième livre sur la chasse et la pêche. Le onzième est un résumé des 10 livres précédents. Et le douzième termine avec un calendrier des activités rurales. Donc je vous ai donné ce plan parce que ça permet de remarquer que, en fait, Pietro de Crescenzi reprend le plan des grands traités antiques en adoptant à la suite les deux proposition de l'Antiquité, c'est-à-dire le classement thématique, le plus habituel, et la présentation sous forme de calendrier adoptée par Palladius. Ce dernier est une des sources de Pietro de Crescenzi qui utilisa aussi directement Varron et Caton. Et il est le premier agronome médiéval à les avoir lus. En revanche, il ne connaît Gargilus Martialis et Columelle que par le biais des citations qu'en donne Palladius. Pietro de Crescenzi reprend aussi beaucoup Albert le Grand. Le Liber Ruralium Commodorum se veut un traité moderne. Les références antiques sont là parce qu'elles sont utiles aux yeux de l'auteur et non pour des raisons de conservation du passé. L'ouvrage se distingue également par une organisation très rigoureuse et un sens pratique. Il contient une table des matières et il adopte très souvent l'ordre alphabétique. De plus, chaque livre est précédé d'un court prologue qui annonce le contenu. Il y a donc une méthode, un sens pratique dans l'ouvrage assez remarquable. Enfin, c'est un texte qui se signale par sa démarche scientifique. L'auteur distingue la science des croyances et superstitions populaires. Par exemple, pour lutter contre l'orage, les intempéries qui peuvent en un instant anéantir le vignoble, Pietro de Crescenzi conseille de s'en remettre aux prières et fustige ceux qui, ignorant la nature de ces phénomènes, pensent possible, par toutes sortes de recettes, de lutter autrement contre ces intempéries. Le Moyen-Âge a mis du temps, en somme, à produire un traité de grande ampleur. Et la question qui se pose est de savoir pourquoi. Plusieurs chercheurs ont avancé des hypothèses différentes, on peut les retenir, et j'en ajouterai une plus personnelle. Le Haut Moyen-Âge s'est consacré à la transmission des textes antiques, ce qui peut semblait paradoxal car la société de cette époque est essentiellement rurale et on aurait pu imaginer que ce contexte était favorable à l'élaboration d'un nouveau traité. Bien sûr, cela ne signifie pas que les hommes de ce temps n'avaient aucun intérêt pour l'agriculture. Il faut bien faire la différence entre la transmission des textes et un savoir qui peut aussi se transmettre oralement. Il convient de distinguer clairement le plan de la littérature agronomique et celui des réalités agraires. Jean-Louis Gollin, lui, a fait remarquer que le retour à un intérêt pour l'agronomie, qui commence au XIIe siècle, était lié à l'installation d'une vie urbaine qui laissait des hommes suffisamment distants du monde agricole pour qu'ils puissent le regarder avec du recul. Georges Comet a complété ce point de vue en signalant qu'à la fin du Moyen-Âge, l'agronomie redevient digne d'intérêt au moment où réapparaît la notion d'un prince soucieux du bien public dans son aspect économique et politique. Plus généralement, on a évoqué aussi l'influence d'une classification des disciplines. Certes, dans l'Antiquité, l'agronomie n'avait pas la considération des plus hautes études, mais malgré tout, elle s'était fait une place dans le champ du savoir. Durant le Haut Moyen-Âge, la position de l'agronomie dans l'échelle des connaissances se dégrade, car on privilégie nettement les arts libéraux, et même parmi eux, ce sont surtout la grammaire et la rhétorique qui intéressent les lettrés. Peu à peu, à partir du XIIe, le Moyen-Âge va s'intéresser davantage aux sciences de la nature, l'échelle des savoirs va s'ouvrir, prenant un peu mieux en compte les arts mécaniques, dont l'agriculture. Avec Hugues de Saint-Victor aux 7 arts libéraux reconnus jusqu'au XIIe siècle, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique, la dialectique, et d'autre part l'astronomie, la géométrie, les mathématiques et la musique, s'ajoutent 7 arts mécaniques, sans qu'ils soient particulièrement valorisés, mais au moins ils sont nommés, faits nouveaux. Le XIIIe siècle reprend cette idée en modifiant éventuellement un peu la liste des sciences et la répartition, peu importe les détails ici, l'essentiel est ce mouvement de prise en compte de l'agriculture comme art mécanique. Développement de l'urbanisme, vision de l'économie et de la politique, hiérarchie des savoirs, tous ces aspects me paraissent jouer un rôle. J'y ajoute, d'après mes propres recherches, un facteur culturel. C'est la fin du Moyen-Âge qui nous fournit le premier véritable traité médiéval original en matière d'agriculture. Or, cette période est marquée par un goût pour le champêtre et le pastoral. Les grands princes jouent au berger. René d'Anjou en est sans doute l'exemple le plus célèbre en France. La société est travaillée par un courant bucolique. Chez les nantis, un imaginaire de la vie à la campagne s'installe. Ce phénomène de civilisation me paraît jouer un rôle. Et on le vérifie d'autant mieux si on est attentif à une originalité du traité de Pietro de Crescenzi. En effet, cet ouvrage, outre les considérations techniques attendues sur l'agriculture, évoque aussi le plaisir de vivre à la campagne et, encore plus surprenant, traite des jardins d'agrément dans un traité d'agriculture, ainsi que de la fauconnerie dans un traité d'agriculture. On peut y voir une façon d'ennoblir la vie rustique, de la rehausser autant que possible au niveau de l'image champêtre rêvée qui se diffuse dans les esprits des grands seigneurs en cette fin du Moyen-Âge. L'époque semble retrouver quelque peu une sensibilité romaine antique. Dans l'échelle des valeurs romaines, l'agriculture occupe la première place. Elle est, selon Cicéron, je cite cette phrase fameuse, la meilleure des activités humaines. La réalité, évidemment, peut bien imposer aux propriétaires d'habiter en ville et de s'occuper de commerce ou de politique, la terre demeure le point d'ancrage de la civilisation romaine. Le repos, la joie de l'homme antique consiste à fuir la ville et ses tracas pour séjourner dans sa propriété de campagne. Le traité de Pietro de Crescenzi récupère une partie de ces valeurs antiques. En tout cas, le Liber Ruralium Commodorum est certainement la meilleure synthèse médiévale en matière d'agronomie. Et son succès se voit confirmé par plusieurs traductions en langue vernaculaire. Il est temps d'envisager la production médiévale en langue vulgaire et ses implications. Les premiers textes originaux qu'on rencontre en langue vulgaire, ce sont des traités écrits en ancien français, en anglo-normand précisément, au XIIIe siècle. Ce sont des ouvrages pragmatiques qui reflètent le bagage intellectuel des intendants chargés de diriger les domaines des lords, comme le traité de Sénéchaussée. On connaît également un traité qui s'intitule La Hasbonderie de Walter de Henley, qu'il a composé dans la seconde moitié du XIIIe. Cet ouvrage de Walter de Henley traite trois thèmes. L'administration du domaine, la culture des céréales et l'élevage. Ce traité a eu une belle postérité. Il a été traduit en latin, en anglais, et il a été utilisé jusqu'à la fin du XVIe. Les auteurs anglais sont plus proches de la pratique que de la réflexion scientifique. Je les évoque parce que ce sont les premiers à écrire en langue vernaculaire, mais en fait, ce n'est pas leur œuvre qui connut la plus large diffusion dans l'Occident médiéval. Après cette période de production de traités en anglo-normand, Gottfried von Franken écrit en allemand au début du XIVe, un traité en deux parties. L'une est consacrée à l'arboriculture, l'autre à la viticulture. Je n'en dirai rien de plus, car je ne l'ai pas consulté directement. La fin du Moyen-Âge se passionne, en tout cas, pour l'arboriculture et surtout pour les greffes. On voit naître alors des traités en langue vulgaire qui tiennent plus généralement de la collection de recettes que d'une visée véritablement scientifique. En témoigne, j'ai mis un exemple, la manière de hanter subtilement, qui est un traité sur les greffes en français datant du XVe siècle. Je m'explique cette passion, ces envies d'expérimentation que suscitent les greffes sur les arbres fruitiers par un sentiment de toute puissance qui est indicible et, comme tel, jamais exprimé dans les traités, que ce soit des textes simplement d'ordre pratique ou qui adoptent une démarche plus scientifique. L'homme, par cet acte de la greffe, devient créateur, presque à l'égal de Dieu. Cultiver au sens de soigner, d'entretenir, était la mission que Dieu avait confiée à Adam au jardin d'Éden. Il ne s'agissait en aucun cas de transformer, de métamorphoser. Ces actions procèdent d'un acte divin. L'engouement pour les greffes, très répandu à la fin du Moyen-Âge, ressortit au domaine de l'imaginaire. Loin de n'être qu'une technique réelle, pour les XIVe et XVe siècles, la greffe renvoie, à mon avis, au mythe de la création. C'est surtout une vague de traduction qui occupe la fin du Moyen-Âge. Palladius a été traduit. On connaît des versions italiennes, catalanes, castillanes et anglaises de l'Opus Agriculturae réalisé au XIVe et XVe siècle. Traduire une autorité comme Palladius, on pourrait s'y attendre. Mais Pietro de Crescenzi, auteur médiéval, se voit également traduit en italien, en français, en allemand au Moyen-Âge et en polonais au XVIe siècle. Ces traductions furent imprimées et les éditions se succèdent au moins, alors ça dépend un peu des langues, mais au moins jusqu'au milieu du XVIe siècle. Voici une page d'une édition illustrée en italien datant de 1478 et voici également une page d'une édition en français de 1516 avec l'illustration du calendrier qui ouvre le livre 12. Toutes ces traductions et éditions ont des implications importantes pour la diffusion de l'ouvrage, bien sûr, mais aussi du point de vue linguistique, car c'est un des signes qui montre que les langues vernaculaires acquièrent le statut de langue scientifique. On peut parler d'agriculture en français, en anglais, en allemand, en italien. Le latin n'est plus le seul mode d'expression. Il faut imaginer pour les premiers traducteurs les enjeux et la difficulté de la tâche quand aucun traité d'agronomie de cette ampleur n'existe dans leur langue maternelle. Par exemple, pour la traduction française du XIVe siècle, on voit dans un des meilleurs manuscrits conservant le texte que le traducteur laisse parfois des termes en latin. C'est très net, notamment pour les noms des plantes. On peut imaginer plusieurs cas de figure. Soit un terme latin n'a pas de correspondant en français, soit le mot latin pourrait se traduire par un terme français, mais le traducteur lui préfère le latin et reste à savoir pourquoi. Un exemple, simplement, le nom rovert, désignant une espèce de chêne, est laissé dans la traduction alors que ça n'est pas un terme de la langue française. C'est au livre 5 sur les arbres, chapitre 8. L'absence de traduction de ce substantif peut s'expliquer par le fait qu'aucun nom français n'existait à l'époque pour nommer cette espèce. Vu la description proposée, il s'agit sans doute non pas du chêne pédonculé Quercus robur, mais probablement du chêne sessile, qui est Quercus petraea, dit chêne rouvre, entre autres noms vulgaires français. Or, le français rouvre n'est attesté qu'en 1401 en langue d'Oyle, langue du traducteur qui est sans doute de la France du Nord. On peut aussi imaginer que, parfois, le traducteur ne sait pas de quelle plante il s'agit. D'ailleurs, les traducteurs ou éditeurs modernes ont encore le même type de problème lorsqu'ils traduisent, par exemple, les textes latins. Certains termes désignent des végétaux que nous ne parvenons pas à identifier. Mis à part ces difficultés, la traduction du traité de Pietro de Crescenzi représente surtout pour la langue française un enrichissement considérable de son lexique technique et scientifique. La traduction française est connue sous le nom de Rustican ou Livre des profits champêtres et ruraux. Elle date de 1373 et a été commandée par le roi de France Charles V. Le nom de l'auteur se voit alors francisé en Pierre de Cressan. On connaît le rôle moteur qu'a joué Charles V dans la décision de traduire tout un ensemble de textes du latin en français. Cet exemple français me permet de revenir sur l'idée déjà évoquée d'un intérêt pour la politique qui serait à lier avec le renouveau de l'agronomie à la fin du Moyen-Âge. En effet, ce n'est sans doute pas un hasard, à côté de cette commande de traduction d'un texte agronomique, Charles V a demandé à ce qu'on traduise en français les grands traités d'Aristote, l'économique, l'éthique, la politique. La science politique tient une place de choix dans la bibliothèque du souverain. On peut vérifier aussi sur cet exemple le goût du bucolique que j'évoquais sur le plan des mentalités. L'intérêt pour cet ouvrage en est déjà la preuve, mais d'autres œuvres viennent confirmer cet état d'esprit propre à la fin du Moyen-Âge. On a pensé pendant un temps que le traducteur de Pietro de Crescenzi était Jean Corbechon. Les travaux d'Hélène Naïs ont définitivement écarté cette attribution de la traduction de 1373 à Jean Corbechon. Néanmoins, dans des ouvrages récents, on trouve encore une association de trois personnages. Le traducteur anonyme de Pietro de Crescenzi, Jean Corbechon et Jean de Brie. Jean Corbechon, de l'ordre de Saint-Augustin, maître en théologie, chapelain de Charles V, qui a traduit à la demande de ce dernier en 1372 le De proprietatibus rebum de Barthélemy Langlais, n'est pas un inconnu. Quant à Jean de Brie, il a composé en 1379 pour Charles V le vrai régime et gouvernement des bergers et bergères. Ainsi, Pierre Toubert rassemble-t-il ces trois textes en affirmant qu'ils forment un groupe cohérent à comprendre comme la constitution d'un corpus agronomique en langue vulgaire. Cette présentation me semble exagérée. Bien sûr, les dates, la référence à Charles V invite à faire des rapprochements. Mais l'œuvre traduite par Jean Corbechon est une encyclopédie. En 19 livres qui n'ont pas à tout savoir avec l'agriculture, loin de là. Jean de Brie, lui, écrit directement en français et adresse son ouvrage au roi. S'il ne convient pas, je crois, de forcer les rapprochements, il est néanmoins nécessaire d'attirer l'attention sur un intérêt à la cour de Charles V pour des questions d'ordre pratique et notamment agricole, comme en témoigne le traité de Jean de Brie, qui connut 4 éditions au XVIe siècle, la dernière datant de 1594 à Louvain. Jean de Brie était un berger qui finit par entrer au service d'un conseiller de Charles V, Et c'est chez ce conseiller qu'il a écrit son traité, un lettré ayant dû collaborer à la rédaction, notamment pour les références non techniques, parce qu'on trouve dans ce texte des renvois, des évocations mythologiques, des renvois à la Bible. Cela dit, ce texte de Jean de Brie reflète les méthodes d'élevage du mouton à l'époque de Charles V. Il a donc un caractère moderne et utile, tout comme le traité de Pierre de Cressan. Outre la traduction commandée par Charles V, une seconde traduction française du texte de Pietro de Crescenzi fut établie par un certain frère Nicole du couvent des Dominicains de Dijon en 1413. Mais elle n'est conservée que dans un seul manuscrit incomplet et ne fut jamais éditée. Voici, pour vous montrer à quoi ça ressemble, une partie de page de ce manuscrit que j'ai étudié. C'est un manuscrit de travail. C'est donc la première traduction, celle commandée par Charles V, qui connut les honneurs de l'imprimerie. Le manuscrit de dédicace à Charles V est perdu. Mais sur les 14 manuscrits actuellement conservés de cette version de 1373, 8 sont des manuscrits d'apparat, 6 des manuscrits de travail. À ces derniers, on peut ajouter les deux incunables, ce qui dans la production médiévale qui a survécu nous laisse un partage équitable entre deux visées. Le plaisir du bibliophile et la transmission des connaissances en matière d'agriculture. On arrive à un équilibre entre des manuscrits qui transmettent soigneusement le texte et des manuscrits qui se distinguent par un texte plutôt fautif, mais une belle calligraphie et des miniatures. Cette traduction française de 1373 a donc à peu près autant intéressé des bibliophiles qui ont commandé de beaux livres enluminés que des lecteurs désirant avant tout s'informer des techniques agricoles. Si les grands seigneurs sont souvent des amateurs d'enluminure, il ne faut pas non plus leur attribuer trop systématiquement cette attitude, car nous avons aussi l'exemple d'un manuscrit de travail conservé à Bruxelles qui a vraisemblablement appartenu au duc de Bourgogne. Je prends donc l'exemple de la traduction française parce que c'est celui que je connais le mieux et que du coup j'ai à ma disposition la documentation pour les miniatures. La traduction française a intéressé l'Angleterre. On conserve encore à Londres un luxueux manuscrit qui a été exécuté vers 1480 à Bruges pour Édouard IV, roi d'Angleterre. Vous pouvez avoir une idée de la richesse, de la diversité de ces manuscrits de luxe avec les trois illustrations du livre 7 que je vais vous montrer, donc le livre 7 qui porte sur les prés et les bois. Voici d'abord le haut d'une page d'un manuscrit exécuté vers 1450-1460. On ne sait pas à qui il a appartenu au Moyen-Âge, mais c'est un volume extrêmement soigné. Voici ensuite, pour comparer, un manuscrit de la fin du XVe, et vous voyez que le choix du peintre est également de représenter la fenaison. Il va y avoir des cycles iconographiques qui vont se mettre en place pour illustrer ce traité. Les miniatures de ce manuscrit ont été réalisées vers 1480-85 à Poitiers. Alors bien sûr, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là. L'artiste est anonyme. Donc pour se repérer, on le nomme le maître d'Yvon Dufou. C'est un manuscrit sur parchemin qui porte, vous pouvez le voir, les armes d'Yvon Dufou, qui était grand veneur, sénéchal de Poitou. C'était un fidèle de Louis XI. Il mourut en 1488. L'écriture gothique est très soignée, très lisible. On a des lettrines. C'est un manuscrit de luxe. Le peintre, vous voyez, a un style tout à fait différent du précédent. Ici, c'est plutôt un style concis, dépouillé. Enfin, je termine par quelque chose d'encore complètement différent. Un manuscrit des environs de 1470, composé à Bruges pour Antoine, grand bâtard de Bourgogne, fils naturel de Philippe le Bon. Hélène Naïs, dans ses travaux, a relevé l'existence de ces manuscrits exécutés pour orner la bibliothèque des grands seigneurs, et elle en conclut que ce traité a dû être à la mode, mais il me semble que ce phénomène va plus loin qu'une question de mode. Ça signifie que l'ouvrage a la capacité de susciter l'admiration. Il devient ce que nous appellerions aujourd'hui un livre d'art. La science et le savoir technique ne sont pas réservés aux spécialistes. Même si les propriétaires des plus riches manuscrits ne lisaient pas de près le texte, avoir l'œuvre dans sa bibliothèque avait visiblement de l'importance. Par ces miniatures, on transformait une œuvre scientifique et technique en un beau livre de science. Pietro de Crescenzi exerça donc une influence dans plusieurs pays européens, à commencer par le sien, et pas seulement par le biais de la traduction en italien. En effet, un propriétaire pérugin, Corniolo della Cornia, entreprit vers 1410 d'écrire directement en italien un traité d'agronomie, la Divina Villa, qui doit beaucoup à son devancier de Bologne. Mais l'état d'esprit est un peu différent tout de même, car Corniolo della Cornia a une tendance humaniste qui consiste à citer les agronomes romains antiques pour eux-mêmes, et pas parce qu'ils sont forcément utiles à la pratique agraire du XVe siècle. Par exemple, Corniolo della Cornia préfère citer les variétés de vignes transmises par Pline plutôt que de dresser un inventaire contemporain, comme l'avait fait Pietro de Crescenzi dans son traité. À la différence de Pietro de Crescenzi et de son attitude scientifique, Corniolo della Cornia se montre plus réceptif à la magie et rapporte par exemple que la peau de crocodile ou celle de veau marin protège des intempéries, pour éviter donc que le vignoble ne soit dévasté. L'ouvrage de Corniolo della Cornia comprend 10 livres avec un plan très proche de celui de Pietro de Crescenzi. J'évoque à chaque fois ces questions de plan et rien qu'en disant cela, c'est déjà montrer l'aura de cet auteur qui fait figure de grand agronome moderne pour la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a donc commencé par recopier les traités d'agronomie, mais pas toujours pour des raisons touchant à la transmission du savoir en matière d'agriculture. Ce n'est qu'au XIIe siècle qu'un intérêt renaît vraiment, et c'est le XIVe siècle qui fournit un véritable traité de grande ampleur, le Liber Ruralium Commodorum de Pietro de Crescenzi. La fin du Moyen-Âge voit également le développement de l'utilisation des langues vernaculaires, augmentant ainsi la diffusion des connaissances. Vu les textes que j'ai évoqués, on comprend bien que, même si j'ai employé le terme d'agronomie, il ne s'agit pas de le prendre au sens moderne. La conception actuelle voit dans l'agronomie l'ensemble des sciences exactes, naturelles, économiques et sociales, et des techniques auxquelles il est fait appel dans la pratique et la compréhension de l'agriculture, les sciences vétérinaires étant parfois exclues de la définition. Pour le Moyen-Âge, si on s'autorise à parler d'agronomie, comme je l'ai fait, il faut garder en tête que le terme a un sens plus large, car les textes agronomiques peuvent aussi ressortir à la poésie, à la morale, et à la fin du Moyen-Âge, apparaître comme un art de vivre.
Merci à vous. Des questions? On va peut-être allumer un peu la lumière. Non, parce que... non.
sera chronologique, parce que moi, c'est le début. À propos des, à propos des Carolingiens, en fait, donc c'est notamment Virgile qui est présent dans les bibliothèques, et c'est des bibliothèques monastiques, j'imagine. Mais est-ce que, étant donné que ce texte circule dans le corpus virgilien, est-ce qu'il est choisi et conservé pour son contenu, ou est-ce que c'est par d'abord l'autorité de Virgile et peut-être après pour des questions plutôt de poésie, de métrique, oui, etc.
Oui, oui. Donc l'autorité de Virgile a un poids considérable. C'est l'auteur de référence. Et en fait, les géorgiques sont d'abord lus pour des questions rhétoriques, des questions de grammaire. Le contenu, finalement, nous est transmis par ses copies, mais n'est pas ce qui intéresse prioritairement les copistes. Ça, c'est sûr.
Ouais. C'est une question qui vient un petit peu dans le même sens à propos de ce contenu technique de ces ouvrages. Bon, quand on recopie les agronomes de l'Antiquité, là, on fait un travail, grosso modo, d'humaniste. On lit des beaux textes, mais quel est le public potentiel, enfin, qui lit concrètement les manuscrits des œuvres qu'on peut considérer comme les plus utilitaires d'une certaine façon, qui réalisent par exemple une actualisation du savoir antique, par exemple le traité de Pietro de Crescenzi, si, par exemple. Qui peut lire ça et à quoi est-ce que ça peut servir concrètement?
Alors, il y a deux façons de répondre à la question. D'abord, à qui s'adresse l'auteur? Pietro de Crescenzi dit très clairement comme, en fait, déjà les agronomes romains s'adressent à des propriétaires terriens. Bon. Donc on peut se dire que ce sont eux qui vont lire ces manuscrits. En fait, ensuite, quand on prend la réponse dans l'autre sens et qu'on regarde dans les bibliothèques autant qu'on puisse savoir qui a tel ou tel manuscrit, on voit donc que de grands princes possède des manuscrits, soit de luxe, soit éventuellement de travail, puisque j'ai cité un cas chez les ducs de Bourgogne où il y a un manuscrit de travail dans la bibliothèque. Ce n'est pas le duc lui-même qui lit le texte. Donc il y a toutes sortes d'intermédiaires, un peu, si vous voulez, sur le modèle du système que j'ai évoqué pour les Carolingiens, ça va être un maître des convers qui lit et qui transmet oralement, éventuellement, telle ou telle technique ou tel savoir intéressant à des exécutants. Donc là, dans ces bibliothèques, c'est très probable, les ducs, les princes ont des exemplaires. Ces exemplaires sont lus par des intendants. On a un cas, par exemple, ça c'est assez intéressant, d'un manuscrit de Pierre de Cressan en traduction française, dont on sait, alors ça, on arrive déjà au XVIe siècle, mais on est encore au début du XVIe, qu'il a été possédé par quelqu'un qui s'occupait de bois. Donc qui avait une activité. Donc probablement que c'était surtout le livre 7 sur les bois qui l'intéressait. Mais voilà, qui avait une activité précise correspondant au domaine traité dans l'ouvrage. On peut aussi trouver, on a un autre exemple d'un autre manuscrit en traduction française aussi, qui a été dans la bibliothèque des Budé. Je suis toujours au XVIe siècle parce que je ne peux pas remonter au-delà, mais ça veut dire que là, on est du côté des humanistes, ce qui peut sembler plus curieux. Donc, en fait, les possesseurs de manuscrits sont variés à la fois dans le statut social, et après c'est difficile de dire ce que eux y cherchaient. Sauf quand on a, je vous ai cité l'exemple de cet homme qui travaillait le bois, qui avait des bois, bon, là c'est clair. Mais Budé, qu'allait-il chercher dans la traduction française de Pierre de Cressan? Je ne sais pas.
La première des trois enluminures que vous avez montrées à la fin fait beaucoup penser aux illustrations des régisseurs du duc de Berry et des frères Limbourg.
Oui.
Et Ces images montrent bien de quelle façon, au fond, la vie rurale pénètre constamment la vie des hommes, y compris dans les villes. Les villes sont enfermées dans leurs murs, mais sous les murs, il y a des paysans qui travaillent. Et le cycle des saisons, au fond, est très bien connu. Donc, s'il y a des traités agronomiques, ils doivent être considérés d'une certaine façon comme une manière pour des praticiens des arts de la terre d'améliorer leur production. Et alors, vous avez cité René d'Anjou pour son goût de la pastorale. Bien, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se dit généralement là-dessus, parce que, évidemment, le goût de la pastorale, pour René d'Anjou, on le connaît à travers deux textes. C'est le pas de la pastourelle, où c'est un thème de jeu, de tournoi. Et aussi par Renaud et Jeanneton, qui est extrêmement tardif et que René n'a peut-être jamais vu. Donc, cette connaissance que René, ce goût que René pouvait avoir pour la bergerie me paraît très mal documenté. Mais par contre, il existe un relevé, semble-t-il, extrêmement suivi et très détaillé de la gestion d'un domaine rural par René d'Anjou, qui était le domaine de Gardanne. Oui. Et je ne crois pas que ce soit publié.
Ah non, je crois pas.
Donc, certains collègues qui ont travaillé sur René d'Anjou l'ont eu entre les mains en manuscrit. Mais c'est un document qui montre de quelle façon extrêmement minutieuse un domaine rural pouvait être géré sous l'autorité d'un grand prince. Et ce qui me paraît ressortir du rapport de René d'Anjou, qui par ailleurs, autant je me souviens, n'avait pas de traité d'agronomie dans sa bibliothèque. Ce qui me paraît ressortir, c'est qu'en cette fin du Moyen-Âge, à l'imitation des princes italiens, certains princes français, comme René d'Anjou, ont pris un intérêt pour la gestion de domaines ruraux. René en a acheté des quantités un peu partout, en Provence et en Anjou. Et il a, semble-t-il, suivi d'extrêmement près tout ce qui s'y passait. Alors, je connais, moi, surtout les comtes d'Anjou à l'époque de René, enfin à la fin du XIVe et au cours du XVe siècle, en particulier à l'époque de René d'Anjou. Et à l'époque de René, toute une série de personnages ont des responsabilités fondamentales dans la gestion de telle ou telle chose. Les ponts sur la Loire, par exemple, la gestion des digues le long de la Loire, et ainsi de suite. Et il me semble que pour René, la gestion des domaines relevait de la même chose. Il y a des régisseurs qui doivent appliquer des règles. Et c'est un aspect des choses que vous n'avez pas abordé dans vos travaux, que la manière dont on pouvait gérer des domaines ruraux. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples que l'exemple de René d'Anjou et du domaine de Gardanne ?
Non, en fait, je ne connais que l'exemple de René d'Anjou. C'est le seul sur lequel j'ai un peu travaillé. Plus sur ses possessions en Anjou, d'ailleurs, que Gardanne, parce que Gardanne, je n'ai jamais vu le document. Mais moi, il me semble que cette attention portée à la gestion du domaine va un peu, c'est pour ça que je ne l'ai pas développé, mais là, vous me donnez l'occasion. Il me semble que ça rejoint un peu cette idée que je mentionnais qui vient de Georges Comé, qu'il y a une sorte de retour d'attention du prince vis-à-vis justement de l'économie, de la politique, donc de la gestion des domaines. Et René d'Anjou me paraît, alors, bon, remarquez, je ne peux pas vraiment comparer avec d'autres, mais je crois qu'il est assez exemplaire de cette tendance, de cette attention, on va dire, à l'économie et à la politique.
Alors, je dis dans le micro qu'il me semble que c'est à l'imitation des princes italiens que
René
avait pu connaître en Toscane, autour de Côme de Médicis, par exemple.
Oui, très probablement. Oui. C'est pour ça que ça n'est peut-être pas généralisé après chez d'autres grands princes d'autres pays, français ou d'autres pays, je ne sais pas ça. Mais chez René d'Anjou, il y a une influence italienne, c'est sûr. Oui.
Oui, je continue sur ce que vous disiez. Je crois qu'il ne faut pas confondre quand même la bonne gestion domaniale et l'intérêt pour une science agricole, on va dire. C'est pas la même chose, parce que cet intérêt pour la gestion domaniale, il est témoigné tout au long du Moyen Âge, je veux dire, depuis le capitulaire des Vilis jusqu'à ces contes de René, enfin, ou cette espèce d'inventaire de René d'Anjou. Ça, les princes ont toujours eu un très grand intérêt, évidemment, à ce qu'ils pouvaient leur rapporter. Par contre, ce qui est beaucoup plus problématique, évidemment, c'est l'usage concret qu'on peut faire de cette espèce de science agricole, on va dire, plus ou moins empirique, parfois très théorisée, parfois un petit peu plus empirique, où là, évidemment, ça rejoint la question que j'ai posée précédemment sur la transmission éventuellement de cette connaissance vers les praticiens. Pour Al-Andalus, par exemple, quelque chose qui a été bien étudié, et donc, même si on conserve très peu de manuscrits, on sait que les travaux des botanistes, agronomes, etc., on a de bonnes raisons de penser qu'ils étaient véritablement très diffusés, pas forcément dans leur totalité, mais au moins des extraits étaient recopiés et étaient possédés par de simples propriétaires terriens. Alors il est vrai que la culture écrite était aussi beaucoup plus, la capacité de lire des écrits diffusée, était beaucoup plus diffusée en Al-Andalus, mais c'est quand même un des enjeux essentiels de comprendre finalement la fonction de ces manuscrits. Est-ce que c'était vraiment des manuscrits d'apparat? Bon, dans un certain nombre de cas, c'est évident. De toute façon, c'est de la littérature classique, ce sont de l'Antiquité romaine. Par contre, dans d'autres cas, évidemment, quand ces ouvrages ont l'air plus pragmatiques, là, vraiment, c'est... Alors, quand il y a des traductions, oui, évidemment, on peut se dire que la traduction est une façon quand même de rendre un petit peu plus accessible un texte. C'est dans ce milieu, en plus, c'est un milieu qu'on connaît très mal, finalement, ce milieu des administrateurs, en particulier du bas Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle. On ne connaît pas du tout leur culture. S'ils ont eu des bibliothèques, on n'en conserve rien. On n'a pas d'inventaire, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment un très, très, très gros problème, je trouve.
Oui. Alors, effectivement, première chose, c'est vrai que c'est intéressant de distinguer gestion du domaine et, on va dire, proprement la technique agricole. Mais d'un autre côté, ce qui est quand même frappant, je l'ai dit déjà pour les auteurs romains et ça continue après au Moyen-Âge, quasiment tous les traités commencent par la gestion du domaine. Donc un traité d'agronomie, dans la vision agronomique médiévale, un traité d'agronomie comprend cet aspect économique. Les deux sont vraiment liés, imbriqués. C'est comme ça que tous les agronomes romains font. Et ce qui me paraît révélateur, quand on a des traités pas aussi ambitieux, pas aussi complets que celui de Pietro de Crescenzi, mais par exemple Walter de Henley, il ne parle que de trois aspects, ce n'est pas un traité complet, mais le premier, c'est la gestion du domaine. Donc il faut à la fois distinguer et en même temps, dans l'esprit médiéval, je crois que ça montre bien que cet aspect économique fait partie de l'agronomie, au sens vraiment plein. Après, vraiment, oui, cette question de qui utilise et comment les textes, c'est presque insoluble, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on a envie de savoir plus précisément, mais je crois que là, on atteint nos limites. Il faut se résigner à se dire qu'il y a des intendants dont on ne sait pas très bien comment ils travaillent, comment... Là, on manque de documents, vraiment.
Merci, on s'arrête là, malheureusement. Donc, c'était la dernière conférence du cycle Histoire des sciences au Moyen-Âge. Je vous remercie beaucoup pour cette belle conférence, Fleur Vigneron. Bonsoir à tous.